Et elle, c'est notre pont vers le secteur des médias. Comme chaque samedi, nous avons rendez-vous avec Sonia De Villers. Bonjour Sonia.
Bonjour Alexandra et bonjour à tous.
Sonia, ils ne sont pas déconfinés le 11 mai et ils souffrent de n'avoir aucune visibilité sur le calendrier à venir. Pourtant, on ne remet pas en route une salle de cinéma aussi rapidement qu'un restaurant. Ils se sont, les responsables de ces salles de ciné. Dans quelques minutes, votre invité, Nathanaël Karmitz, le directeur général du groupe MK2, nous expliquera pourquoi. Mais en attendant, un mot sur la grande question qui hante le secteur de la culture. Le confinement est-il en train d'accélérer sa dématérialisation? Les tableaux, la musique, les livres, le cinéma? Est-ce que tout ça ne se consommera pas bientôt plus que sur des petits écrans, Sonia?
Ce qui est sûr, Alexandra, c'est qu'une cinquantaine de films de cinéma ont déjà reçu l'autorisation de basculer plus vite que la loi ne le permet normalement en vidéo à la demande. Et d'autres sortent même directement en numérique sans passer par la salle. On vient tout juste d'apprendre que le Pinocchio de Matteo Garrone, qui est une énorme production avec des effets spéciaux et Roberto Benigni dans le rôle titre, sortira sur Amazon Prime en France au lieu du cinéma. Ça peut marcher très fort et ça peut marcher très gros, c'est bien ça le problème. Aux États-Unis, Alexandra, Troll 2, qui est un dessin animé franchement déjanté, est sorti en vidéo à la demande et a engendré 100 millions de dollars de recettes en 3 semaines, c'est-à-dire plus d'argent que le premier opus en 5 mois de programmation dans les salles obscures. Résultat, son producteur, le célèbre Universal Pictures, a déclaré cette semaine qu'il allait continuer ainsi, même au-delà de l'épidémie. Chacun de ses longs métrages paraîtra à l'avenir simultanément sur grand et sur tout petit écran. Les exploitants de salles sont furieux aux États-Unis. AMC, qui est le plus gros circuit de cinéma là-bas, annonce qu'il boycottera tous les films d'Universal, et c'est pas rien tous les films d'Universal, parce que là-dedans, il y a d'énormes blockbusters.
Ouais, comme les Mignons et Fast and Furious. Hein. La situation des cinémas américains, Sonia, elle est rendue encore plus inconfortable par le fait que chaque grand studio va bientôt avoir sa propre plateforme sur le web.
Alors, cette année, s'est lancé outre-Atlantique Peacock, qui est le site de vidéo à la demande d'Universal, justement. On attend bientôt HBO Max, derrière lequel se cache Warner, un géant du cinéma yankee, sans compter Disney+, la nouvelle plateforme des films Disney, évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi, dans Disney+, tout le catalogue de la 20th Century Fox, un autre studio mythique. Alors que toutes ces machines à fabriquer du 7e art se servent de leur plateforme pour recycler leurs vieux films. Parfait. Mais si elles en font des tremplins pour les nouveautés, elles tuent les salles.
D'autant que les plateformes de vidéo à la demande, elles affichent des croissances et des cours de bourse insolents. Hein. Netflix, Sonia, c'est 167 millions d'abonnés. Ouais, ça vient d'en engranger pendant le confinement 16 millions de plus. Votre invité, c'est le directeur général de MK2. Alors, ce sont des salles de cinéma à Paris et en Espagne. MK2, c'est aussi une filiale de production, une autre de vente et de distribution. Et puis, MK2, c'est un vaste catalogue de films d'auteurs dont justement une partie vient d'être vendue à Netflix. Bonjour et bienvenue à vous, Nathanaël Karmitz.
Bonjour.
Sonia, votre première question à Nathanaël Karmitz.
Eh bien, Nathanaël Karmitz, j'aimerais bien que vous nous expliquiez combien de temps il vous faut pour remettre en route, pas seulement la salle, mais tout le circuit de diffusion d'un film. Et est-ce que cela peut se faire dans certaines régions et pas dans d'autres?
Alors, c'est bien tout le problème, puisque le problème pour les salles de cinéma n'est pas tellement de savoir quand on va pouvoir redémarrer, mais dans quelles conditions. Il va falloir des conditions qui soient sanitairement acceptables, qui soient surtout durables et économiquement viables. Parce que c'est effectivement toute une industrie qui est à relancer. Il faut que les salles ouvrent pour que les distributeurs puissent dater leurs films, engager la promotion de ces films. Il faut que les tournages puissent reprendre le plus rapidement possible, parce que sinon, dans 12 à 18 mois, il y aura un problème de pénurie de films. Il faut que les marchés internationaux puissent reprendre pour que ces distributeurs puissent eux-mêmes acheter des films. Donc c'est toute une industrie qu'il faut arriver à relancer. Et en moyenne, entre le jour de la réouverture et les premiers films d'exclusivité qui pourraient sortir, on estime qu'il faudrait 2 à 3 semaines. Mais aussi une espèce de coordination des dates pas trop éloignées au niveau international, parce qu'évidemment il y a beaucoup de films, notamment les Américains, qui sont des sorties mondiales, et donc il faut notamment qu'aux États-Unis et dans plusieurs grands territoires européens, les salles puissent être ouvertes, encore une fois avec des conditions acceptables, à savoir des jauges suffisantes pour permettre à ces distributeurs de prendre le risque d'aller exposer leurs films en salle.
Oui, c'est ça, on comprend bien. Une grosse sortie comme le Christopher Nolan au mois de juillet, il faut qu'elle puisse se faire simultanément dans plusieurs pays. Nathanaël Karmitz, est-ce que vous comprenez la colère de vos homologues exploitants américains contre Universal Pictures qui veut sortir ses films maintenant à la fois sur Internet et au cinéma?
Alors oui, la question que ça pose en réalité, c'est la question de la chronologie des médias. Est-ce que les films doivent sortir en vidéo à la demande en même temps que la salle de cinéma? Certains poussent pour ça, mais l'exposition des films en salle reste à la fois économiquement très viable, très rentable, et une plateforme de lancement qui donne la valeur au film dans ses exploitations futures. Donc l'attitude d'Universal, alors que c'est un métier qui vit généralement dans la concertation autour de ces questions-là, est une attitude qui est franchement très provocatrice dans ce contexte, puisqu'on a le sentiment qu'ils essayent de profiter de cette crise pour imposer une nouvelle forme de chronologie des médias. Mais jusque-là, les salles de cinéma et les grands réseaux font cause commune. Ouais. Et vont défendre cette chronologie des médias.
Ouais, bien sûr. Les Oscars aussi viennent d'annoncer cette semaine. Décidément, l'actualité était chargée pour vous cette semaine. Ils annoncent les Oscars qui vont changer leur règlement pour 2021. Les films proposés par Netflix et autres sont éligibles à la compétition sans sortie en salle. Est-ce que pour vous, c'est un coup de poignard, Nathanaël Karmitz, vous-même qui avez dit que Netflix avait une attitude prédatrice vis-à-vis du cinéma, c'est-à-dire que ces plateformes, elles font tout pour tuer les salles. Elles viennent d'obtenir une belle victoire là avec les Oscars, non?
Alors encore une fois, on est dans un contexte d'urgence, donc c'est une mesure exceptionnelle. Les Oscars l'annoncent comme une mesure exceptionnelle, et on pense et on espère que, comme toutes ces mesures exceptionnelles et aussi celles qui concernent par exemple nos libertés, elles ne sont que provisoires le temps de cette crise et que tout reviendra à la normale dans le futur. Après, encore une fois, c'est normal, les salles sont fermées, les films ont besoin d'être éligibles, oui. La saison des Oscars a besoin de continuer, donc il faut quelques exceptions à ces règles.
Parce qu'en réalité, c'est la définition même de ce que c'est qu'un film de cinéma, ou de ce que c'est que le cinéma, qui risque de changer.
Oui, alors sachant qu'encore une fois, on peut espérer qu'on va tous revenir à qu'on peut appeler une vie normale et qu'on va tous pouvoir revenir au cinéma. J'ai l'impression que c'est une activité qui manque quand même à beaucoup de gens.
C'est vrai.
Après, effectivement, le débat est de savoir si un film produit pour le petit écran et notamment pour les plateformes est la même chose qu'un film pour le grand écran. Et à un moment, c'est la question de l'offre et la demande. Ces plateformes gèrent par les algorithmes une demande, alors que le cinéma c'est l'offre par excellence. On crée une offre de films et il faut que les gens aient la motivation de sortir de chez eux et de payer leur billet de cinéma pour aller le voir. Donc on est dans des démarches qui sont différentes, et cette démarche différente a un impact sur la création. Donc effectivement, le commanditaire a une importance dans cette chaîne de valeur, et la salle de cinéma à ce titre-là n'est pas remplaçable juste par une modification économique de la diffusion vers les plateformes.
Oui, c'est très intéressant. Vous venez de vendre, Nathanaël Karmitz, 50 films du magnifique catalogue de MK2. Vous avez vendu des Truffaut, des Chaplin, des Jacques Demy à Netflix, justement. Mais est-ce que la place de ces films, elle n'est pas d'abord à la télévision française? Quand je vous parle de la télévision française, je vous parle pas de chauvinisme. Je vous parle simplement d'un média qui est visible par tous, gratuitement et sans abonnement.
Alors, si, bien sûr, ce qui a été vendu, c'est des droits de diffusion auprès de Netflix, qui ne sont pas exclusifs, qui n'empêchent pas le service public ou d'autres plateformes comme la Cinéthèque ou même Amazon de diffuser ces films. C'est des films qui sont vendus pour une durée de droit.
Alors attendez, je vous interromps parce que c'est vraiment une précision très très importante que vous venez de donner. C'est-à-dire que contrairement aux nouveautés, quand vous vendez des films de catalogue, c'est-à-dire des films de patrimoine à Netflix, vous n'empêchez pas d'autres plateformes ou d'autres chaînes de télévision de les diffuser?
Non, pas du tout. Il n'y a pas d'effet d'éviction. C'est juste que Netflix a le droit de présenter à ses abonnés français ces films. Et c'est ça l'événement notable, c'est que Netflix jusque-là refusait de passer des films de patrimoine. On est très heureux d'avoir fait cet accord, on espère qu'il va pouvoir s'étendre aussi à d'autres pays, et ça contribue à la transmission de ces films en leur donnant une autre audience et une audience plus large. Néanmoins, effectivement, on peut regretter que ces films qui avant passaient souvent en prime time sur France Télévisions, sur France 2 ou sur France 3, n'y passent plus. Et qu'aujourd'hui, ça soit Arte qui fasse ce travail formidable d'exigence culturelle et de transmission, mais que ce type de film déserte petit à petit les premières chaînes du service public.
C'est ça. Et on peut signaler, par exemple, lancer également cette semaine sur change.org hein, une vaste pétition, justement, et un texte signé par de très nombreux acteurs du cinéma, de sa distribution, de la critique de films également, qui pointe le fait que France Télévisions ne prend plus aucun risque, c'est-à-dire diffuse des Yves Robert et des Gérard Houry formidables, mais vus et revus, et laisse de côté tout un tas de classiques étrangers, tout un tas de films du cinéma français contemporain. Vous le regrettez, vous aussi ?
Oui, on peut le regretter, puisque tous les acteurs de l'industrie culturelle, et vous le disiez dans votre introduction, prennent des risques en ce moment sur la dématérialisation, sur la présentation de nouveaux programmes, sur le fait d'essayer des choses. Et ce qu'on voit aussi, notamment à travers le succès d'Arte, c'est que l'exigence culturelle, généralement, paye. Donc, s'il y avait bien un moment, et s'il y a bien un moment où on peut tenter des choses et prendre des risques, c'est en ce moment. Et effectivement, je regrette comme tous les signataires de cette tribune, que France Télévisions ne prenne pas plus de risques en ce moment sur des diffusions un peu plus ambitieuses.
Merci beaucoup, Nathanaël Karmitz. Merci d'avoir été avec nous sur France Inter.
Et je signale, Sonia, que depuis le début du confinement, MK2 Curiosity, c'est un site du groupe MK2, offre chaque mercredi 3 films gratuits. Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment sur MK2 Curiosity, Sonia?
Bah, par exemple, le très beau Pickpocket de Robert Bresson, qui pour le coup est offert gratuitement à tous, à tous les internautes, sans abonnement.
Et avant de se quitter, jetons un œil au reste de l'actualité des médias cette semaine, en presse écrite cette fois. Ben, on commence par la France.
Eh bien, Presstalis, vous savez, on en a beaucoup parlé hein, dans les journaux d'Inter, c'est l'entreprise qui distribue les 3/4 de la presse française. Elle est en faillite depuis la semaine dernière. Quotidiens et magazines ont jusqu'au 12 mai hein, pour trouver une issue. Alors d'ici là, les journaux vendent à perte et Presstalis va engouffrer dans son naufrage des millions d'euros que les éditeurs ne récupéreront jamais. Alors, lassé d'attendre une solution, eh bien une poignée de magazines indépendants ont créé, là, il y a quelques jours, leur propre système de distribution. Parmi eux, il y a Society, il y a Picsou Magazine, il y a le journal de Mickey, il y a Point de vue et les cahiers du cinéma. Alors, vous me direz, c'est des titres très bigarrés, on se demande ce qu'ils font ensemble. Et bien, ce qu'ils font ensemble, c'est qu'ils continuent de croire au papier, Alexandra, à la presse papier.
Et puis, il nous reste une poignée de secondes, une news de Grande-Bretagne, un peu shocking.
Imaginez le très prestigieux quotidien économique, Alexandra, que vous connaissez bien, le Financial Times, dont le journaliste média, c'est-à-dire le type qui fait le même boulot que moi là-bas, vient de prendre un énorme carton rouge. Il a espionné deux autres journaux, le Evening Standard et The Independent. Pourquoi ? Pour être le premier à raconter que les concurrents mettaient des salariés au chômage. Comment a-t-il eu l'info ? Eh bien, en s'infiltrant avec une fausse identité dans les réunions Zoom de ses concurrents. Méfiance à toutes les entreprises qui utilisent Zoom pour les réunions en télétravail depuis la maison. Méfiance, elles sont infiltrées.
Le rendez-vous média de Sonia De Villers, c'est le samedi matin, juste avant 10h. Merci Sonia.